suis pas du tout une théoricienne de... Voilà, je suis en plus arrivée dans ce lycée autogéré complètement par hasard, sans le connaître. Et donc vraiment, je vais essayer de vous donner là quelques pistes pour vous montrer au quotidien ce qu'on construit là et comment on fonctionne. Et puis je pense que les différents thèmes que je vais évoquer vont forcément faire de l'écho et ouvrir une réflexion, des questions plus vastes qui dépassent notre tout petit lycée. Nous, on a un tout petit lycée de 250 élèves. On habite dans le 15e arrondissement de Paris. Il y a 25 profs et 250 élèves. Le lycée, je fais un petit historique. Il a été fondé en 1982. C'est à l'époque, donc premier septennat, au début du premier septennat de François Mitterrand. C'est le ministère Savary qui était un espace, une fenêtre qui s'est ouverte très progressiste au ministère de l'Éducation nationale. Et il y avait un prof, donc Jean Lévy, qui avait travaillé les années précédentes avec un groupe d'élèves de terminale ayant raté leur bac. Ils se sont mis une année à travailler en groupe d'élèves avec l'aide de Jean Lévy autour de cette idée de préparer le bac autrement. Et de cette expérience-là et des échanges qu'il a eus avec ses élèves, il y a eu une équipe pédagogique qui s'est ralliée à ses idéaux et qui a donné lieu, sur cette possibilité politique, qui a donné lieu à l'ouverture du lycée autogéré. Donc on est en 1982, le lycée ouvre. Aujourd'hui, ça fait donc 35 ans. On va fêter nos 35 ans. Et on est un lycée. Alors, on est un lycée public. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Non, on est un lycée public. Il y a, à ce moment-là, quand le lycée autogéré de Paris a ouvert, il y a trois autres établissements qui ont ouvert en France autour d'idées de faire de l'école autrement. Il y avait des influences déjà. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple finlandais qu'on nous présente beaucoup, qui est médiatisé. Et il y avait déjà à l'époque des regards vers le Danemark qui s'étaient posés et qui inspiraient des créateurs d'établissements scolaires ici. Et il y a eu autour de l'autogestion qui, pour nous, est fondatrice au lycée, deux établissements, le lycée autogéré de Paris et puis le lycée expérimental de Saint-Nazaire qui fonctionne toujours aujourd'hui sur des principes d'autogestion. Donc je vais essayer d'expliquer. Alors, autogestion, on est en 1982, c'est après les années 70, il y a quand même eu aussi dans les mœurs et dans les expériences politiques des uns et des autres, c'était très prégnant, c'est plus du tout à la mode aujourd'hui, hein. Dans l'éducation nationale, plus du tout. Mais donc c'était, disons, un courant plus... peut-être plus facile... Non, je m'emmène. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que l'autogestion au lycée, concrètement. Comment est-ce qu'un élève prend sa place au lycée autogéré. Et puis, on va avoir peut-être après des points plus précis sur une scolarité... Comment on fonctionne, comment on suit les élèves. Alors, je commence par l'autogestion. J'avais dit ça, c'est peut-être dommage.
Comme tu veux.
Alors, je vais commencer par l'élève. Alors, quand on est élève au lycée autogéré, on décide d'être élève. C'est-à-dire que c'est pas un lycée qui correspond à une carte scolaire où on est envoyé. C'est pas un lycée où des parents inscrivent leur enfant, c'est un lycée où la démarche d'inscription est faite par l'élève. C'est-à-dire que on a, suivant les années, la médiatisation, on a plus de demandes que de places, et avoir la volonté de s'inscrire au lycée pour l'élève, c'est aussi un parcours du combattant pour obtenir une place. Voilà. On est donc tout petit, hein, 250 élèves, ça veut dire qu'on inscrit, on a fait le choix de groupe restreint, maximum 25 élèves par classe. Donc on inscrit 75 élèves en seconde, on a trois classes de seconde, et puis quelques élèves en première, une quarantaine, suivant les choix de chacun. Et donc ça fait pas beaucoup, et il y a beaucoup plus de candidats que ces places-là. Donc cette volonté de l'élève, je reviendrai peut-être après sur comment on essaye de choisir, c'est compliqué, c'est super compliqué. Mais cette volonté de l'élève, elle est capitale pour intégrer le lycée. Donc tous les élèves qu'on a sont des élèves volontaires pour l'expérience. Et ça, nous, comme public, comme enseignants, c'est un public, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ailleurs. Voilà. Ces élèves ont choisi d'être là. Après, ça... Mais ils ont choisi. On peut leur rappeler qu'ils ont choisi. Non, parce que je suis persuadée que ce qu'on leur demande au lycée autogéré, c'est beaucoup plus exigeant que ce qu'ils ont à affronter ailleurs. C'est pas les mêmes... Voilà, c'est super exigeant. Donc, l'élève est volontaire pour venir au lycée. Il est volontaire pour être un membre du lycée. Donc, il va s'inscrire dans l'autogestion au lycée. Être membre du lycée, ça veut dire on prend les décisions en votant. Moi, j'ai un vote égale une voix. Un élève égale une voix. Un prof égale une voix. On est sur un pied d'égalité au moment de la prise de décision. On a donc instauré un moment obligatoire de présence au lycée, une fois par semaine, qui est une réunion d'information, où on donne les différentes actualités, qui est une réunion de débat sur les thèmes qui sont des thèmes internes, ou ça peut être aussi des thèmes qui nous sont dictés par l'actualité, et un moment de décision, puisque c'est dans cette réunion-là politique que on va voter. On vote le budget, on vote... il y a 2 ans, on s'est remis d'accord sur les horaires du lycée, quels sont les horaires du lycée, à quelle heure on commence les activités. Voilà, cette élaboration-là, ça prend du temps. Et ça s'est sanctionné par un vote, et chacun participe à ces débats, chacun va prendre part à la décision, et va donc l'accepter beaucoup plus facilement que quand elle arrive imposée en début d'année dans un règlement intérieur. On n'a pas de règlement intérieur. On a un engagement, qui est un texte qui a été rédigé par des profs et des élèves, et qui est amendé régulièrement, on fait des changements, voilà. Mais la ligne est très simple, ça tient dans une feuille A4, et ça rappelle ce que c'est que s'engager comme lycéen ou lycée autogéré, c'est-à-dire l'obligation de cette réunion politique, pour être au courant de ce qui se passe, pour prendre part aux décisions. Et puis, quelques points de bon sens, donc le non à la violence verbale, physique, le non à la consommation de produits, et à la vente, bien entendu, de produits illicites. Et je crois que sur les défenses, on est vraiment, on fait confiance au bon sens de chacun, et ça ne nous pose aucun problème de fonctionnement au quotidien. Voilà, ça c'est l'engagement au début. Et ensuite, qu'est-ce que c'est donc concrètement que la gestion ? C'est 7 réunions politiques, et puis on s'organise en commission, une commission qui va s'occuper du parc informatique, une commission qui va s'occuper de l'administration, les dossiers scolaires, le suivi des inscriptions aux examens, une commission qui va s'occuper du budget. On a séparé les différentes tâches à accomplir en 9 commissions, et nous les profs, on est fixes dans chacune de ces commissions. Et les élèves s'engagent pour une période de vacances à vacances à participer dans telle ou telle commission. Voilà. Donc ça c'est vraiment les mains dans le cambouis de l'autogestion, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre concrètement au lycée de fonctionner. Si on ne paye pas notre facture téléphonique, forcément ça pose des problèmes. Si on n'a plus acheté de timbre, ben ça pose des problèmes. Si on n'a pas appelé le réparateur de machine à café, ça pose de gros problèmes, et tout notre quotidien est orienté par ces pratiques-là de gestion. Et voilà, c'est donc la partie gestion. Ensuite, ce qui est très important dans notre manière d'avoir pensé cet établissement, d'abord c'est qu'on peut changer tout ce qu'on construit démocratiquement, et on peut le changer tout le temps, on peut faire des erreurs et revenir sur ce qu'on a décidé. Et puis, c'est que pour nous, tout ce qu'on fait, que ce soit des commissions ou des activités, je vais y venir plus traditionnellement pédagogiques, pour nous, tout est pédagogique. C'est-à-dire que j'apprends autant de choses à faire du secrétariat téléphonique et à avoir au téléphone un parent d'élève en panique de fin d'année, dans la prise de parole, dans l'aisance qu'on peut avoir dans la relation aux autres, c'est aussi très porteur. Donc pour nous, il n'y a pas de... Là, quand on fait une présentation du lycée, je vais vous les séparer, je vous saucissonne un peu tout ça, mais pour nous, c'est vraiment penser dans une globalité. Un parcours d'élève permet de toucher à plein de choses. Donc la gestion. Ensuite, on a des activités qui sont... où tous les groupes sont mélangés, seconde, première, terminale, accessibles à tous, des activités d'atelier. Une fois par semaine, on se retrouve autour d'une pratique. Ça peut être de la photo argentique, ça peut être... de la programmation ordinateur, ça peut être de la pratique d'art plastique, ça peut être du sport. Et là, toutes les classes sont mélangées et l'accès est sur la base du volontariat. Et puis, il y a une plage qui s'appelle le projet, qui a lieu tous les jeudis après-midi. Alors là, tout le monde est disponible, tous les élèves et tous les profs. Et on se met en groupe autour de d'un attrait commun pour... Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a 2 ans et qui est mon meilleur souvenir, là, à l'heure actuelle, au lycée autogéré. C'était avec un collègue prof de musique andalou. Donc, moi, je suis une prof d'espagnol. On s'est retrouvés le jeudi après-midi avec l'idée de faire des reprises de chansons espagnoles avec des gens donc, qui faisaient beaucoup de musique. On a des élèves qui sont très musiciens aussi, on en a pas mal. Et monter un set de reprises de chansons espagnoles et aller en tournée internationale, en somme, à Almeria. Et on est allé faire 3 concerts en une semaine avec une association d'Almeria avec laquelle on avait tissé des liens. Et pour moi, ça, emporter ces élèves dans cette aventure, moi, je n'étais pas musicienne en plus. Et ça, c'est pour moi le... Je ne crois pas que je pourrais faire mieux. Et c'est en groupe que ça se passe. Et ça, c'était vraiment super. Et on a la liberté de construire tout ça. Ça peut venir de profs. Donc là, c'est mon collègue et moi qui avions eu l'idée. Mais ça peut aussi venir d'élèves. Et dans ce cas-là, on essaye de dégager, c'est parfois plus compliqué, des moyens profs pour accompagner un projet d'élève sur une année. Il y en a qui voulaient faire du vélo et qui ont fait plein de vélos, réparer des vélos et pour aller jusqu'en Belgique à vélo. Ils voulaient aller en Hollande, mais finalement, ça faisait loin. Mais voilà, essayer de se laisser la liberté de... Ce qui se passe en projet, c'est ce groupe qui va se réunir autour d'une idée commune et c'est pas prédéfini. C'est pas, je sais pas, un voyage clé en main que, hop, on récupère. C'est ce que chacun dans le groupe va apporter, qui va attirer les choses et qui va permettre au groupe d'avancer. L'idée du projet, c'est d'aboutir à la fin de l'année à une... Alors ça peut être un spectacle, ça peut être une exposition, ça peut être, j'en sais rien, un concert dans notre cas, voilà. Mais d'aboutir ensemble à ce qu'on aura réussi à faire, ça peut être très différent de ce qu'on avait pensé au départ. Donc ça c'est le projet. Et puis je viens sur des activités de cursus plus scolaire, qui ressemblent plus à ce que moi j'ai vécu en tant qu'élève aussi, des activités que nous on va quand même faire de façon différente. On privilégie au maximum d'être 2 profs dans une salle autour d'une activité. Un prof spécialiste, maths, qui va donc à ce moment-là sur une activité de première S orientée vers les maths. Et puis un prof, on va dire, naïf, enfin qui n'est pas en tout cas spécialiste de la matière, qui va pouvoir apporter un autre regard, qui permet aussi de casser le rapport prof qui sait et élève qui sait pas, avec quelque chose de plus souple, quoi. Où un élève peut expliquer, ou un voilà. Et nous, on a la richesse de pouvoir nous organiser comme on veut, et les heures de notre emploi du temps, on en fait ce qu'on veut. Et ça peut permettre d'avoir, le coup d'être 2 dans une salle avec un groupe d'élèves, ça ouvre des portes incroyables. Donc ça, c'est notre liberté aussi à nous. Je précise quand même qu'on prépare aux examens et que donc il y a une partie, moi j'ai l'impression de faire un bachotage immonde en terminale, mais avec des élèves qui, c'est horrible, hein, mais qui en sont d'accord, quoi. Donc, ok, il y a le bac, ça va être en terminale, on va nous demander ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, qu'est-ce qui... Et là, les questions se posent différemment, mais je fais un bachotage horrible. 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 Voilà, qu'est-ce que... Mon bachotage, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, il est assez... Les élèves, ils choisissent.
C'est honnête aussi, c'est ce qu'ils veulent, c'est honnête, papa.
Oui, oui. Alors, les élèves choisissent de venir en cours. C'est-à-dire que dans toutes les activités que je viens de présenter là, il y en a une qui est obligatoire, à laquelle on s'engage en étant élève, à laquelle on doit participer, c'est cette réunion politique dont je parlais au début. Tout le reste, que ce soit le sport, que ce soit les maths, que ce soit... le projet musique, toutes celles-là sont des choix de l'élève et on n'aura pas de. On va pas. Les parents ne reçoivent pas de texto d'abstance. Voilà. Nous, on est complètement en dehors de ça. C'est le principe de la libre fréquentation. Alors, c'est un vieux principe qui correspond à l'idée qu'on ne donne pas à boire à l'âne qui n'a pas soif. Et donc, on attend que l'âne ait soif. Parfois, ça prend du temps. Parfois, il va boire ailleurs. Et voilà, mais c'est cette latitude-là qu'on a. Et ça permet aussi d'ouvrir des questionnements sur ce que nous, on avait, moi, en tant que prof, j'avais pensé offrir et puis se rendre compte qu'il n'y a pas de réception sur ce truc-là, qui pourtant était super. Bon, alors nous, ça nous fait... C'est pas agréable, hein, c'est pas que confortable. Et, mais par contre, ça permet d'avoir... Enfin, c'est... Pour moi, hein, ce principe-là au lycée, si on l'enlève, il n'y a plus de lycée. Voilà. C'est cette liberté que l'élève a de s'inscrire dans les activités. Comme cette liberté-là, il ne l'a jamais eue, en général, sauf de rares cas d'élèves qui ont été dans des écoles un peu parallèles. Dans le système traditionnel, quand ils arrivent au lycée, ils n'ont jamais connu cette liberté-là. Et, nous, alors je ne sais pas vos parcours, c'est, ça correspond un peu à la liberté qu'on a quand on arrive à la fac, où il y avait à l'époque, pas, à mon époque, pas de contrôle de présence et de machin et de trucs. Et tout à coup, oh. Et alors, voilà. Et ça, faire ça quand on a 15 ans, eh ben, c'est super dur. Il y en a beaucoup qui se perdent à la fac déjà, hein, mais quand on a 15 ans, il y a vraiment cette liberté-là, elle n'est pas facile du tout à apprivoiser. Alors nous, on a mis en place un système de tutorat qui essaye d'aider les élèves. Alors chaque élève se voit attribuer au début un prof en tuteur. À partir de la deuxième année, il aura la possibilité de le choisir selon les places disponibles. On a 10 tutés, chaque prof a 10 tutés, et ça va nous permettre, nous, d'être sûr qu'il y a un adulte de l'établissement qui a un regard plus précis posé sur un tel, qui sait ce qui se passe, les problèmes familiaux, les rapports avec l'assistante sociale, voilà, on est sûr que tous les élèves vont avoir ce suivi qui peut permettre aussi une discussion sur mais qu'est-ce que je suis en train de construire ici, vers où je me dirige, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'eux, tous ces questionnements-là sont intégrés à notre fonctionnement. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Je vais finir avec une idée pour revenir sur l'élève, que c'est l'élève qui construit son parcours. Nous, on est des interlocuteurs, alors le tuteur peut être privilégié, mais les autres adultes du lycée aussi. Mais c'est l'élève qui a bien sûr, bien entendu, le dernier mot pour ses choix d'orientation, pour partir en stage pendant 15 jours, pour arrêter sa scolarité pour faire autre chose. Nous, on va être des interlocuteurs, mais chacun choisit vraiment son parcours. À nous de pointer que si ton parcours doit te diriger vers le bac, il est bon que tu viennes faire le bachotage dont je parlais tout à l'heure. C'est pas toujours facile d'être cohérent avec des choix et de s'y tenir sur un lycée qui ne va pas mettre de pression sur les élèves, de pression, on va dire, administrative, comme ils ont eu l'habitude d'en avoir beaucoup. Et donc tout ça, cet apprentissage-là de la liberté, il n'est pas facile, mais il est aussi une richesse. En tant qu'enseignante, c'est vraiment... j'ai l'impression d'être sur une autre planète. J'ai été un petit peu prof dans d'autres établissements avant, et là je suis au lycée depuis 10 ans. Il se trouve que je vais, pour des raisons familiales de déménagement et tout ça, je vais en partir l'an prochain. Et pour moi, retourner dans un lycée, dans un collège traditionnel, je me dis, quand j'en parle pour rigoler, je vais dire je retourne en milieu carcéral. Mais je me dis que, voilà, je crois aussi qu'il y a des espaces, je pense qu'on va en discuter tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi des espaces pour faire plein de choses, même si nous, au lycée, on a un espace incroyable qui nous permet de faire ces choses-là, quoi. De les construire, d'en changer, voilà. Ça, c'est sûr qu'au lycée, on n'a pas d'entrave, c'est nous qui nous mettons nos entraves, et donc on peut les faire sauter plus facilement, peut-être que nous verrons. J'arrête là, j'ai pas parlé d'évaluation, j'avais dit que j'en parlerais. Ah oui, et je peux finir avec la commission. Si, je parle d'évaluation. Si, ok. Donc l'évaluation de l'élève, on fonctionne sans notes. On n'est pas... Moi, individuellement, je ne suis pas du tout convaincue par la note. Et donc le lycée fonctionne sans notes. L'évaluation des élèves, alors ça ne veut pas dire sans évaluation. Chaque élève a un carnet de bord dans lequel il va consigner. Alors ça c'est pareil, c'est la volonté de l'élève. Moi je peux dire aux élèves, attention aujourd'hui on remplit le carnet de bord, mais je ne fais pas des miracles non plus. Donc chacun tient un jour un carnet de bord dans lequel il donne un récit de toutes les activités qu'il fait, les choses qu'il a acquises, les thèmes faits. Ce qui lui permet d'avoir un souvenir. Et nous, les profs ou les élèves qui ont monté un atelier, la personne qui organise valide l'activité en disant oui, en effet, t'as suivi le truc, t'as rendu 3 devoirs, t'as fait je sais pas quoi, les engagements du début qu'on avait fixés sont remplis, donc hop, t'es validé. Et on fonctionne en unité de valeur, donc en UV, il faut avoir des UV, et on collectionne des UV. Voilà. Donc ça, c'est chacun qui va faire ce travail-là d'auto-évaluation. Les élèves sont en général super durs sur l'auto-évaluation, mais super durs. En disant, ben non, de toute façon, non, ça, je ne l'ai pas fait, ça, oui, mais attends, il y a quand même... voilà. C'est une discussion aussi qu'on a avec eux, mais ils sont vraiment, vraiment en général, très durs envers eux-mêmes. Voilà. On n'est pas... On ne veut pas que notre manière de fonctionner puisse être utilisée contre nos élèves. Donc évidemment qu'on met des notes, et de plus en plus, en particulier sur des élèves qui veulent poursuivre leur scolarité après le bac, où on est contraint par l'administration d'avoir pour admission post-bac et des grosses machines comme ça. De plus en plus, il y a des besoins d'évaluer en notes. Et là, je dois dire que nous, on a toujours un peu la tête dans le guidon, donc on est un peu en retard, et ça fait 2-3 ans qu'on doit, à la fin de l'année, se poser sérieusement la question de comment on fait ça pour le faire bien et que ce soit pas trop, que ça nous prenne pas un temps fou comme ça nous prend actuellement, et puis bon, au cas par cas, c'est pas terrible, mais il va falloir qu'on trouve une technique pour s'adapter, parce que de plus en plus, on va avoir besoin de mettre des notes, quoi. Donc, est-ce que c'est... Enfin, donc les questions se posent, je vous en parlerai plus après le mois de juin quand on aura réfléchi à ça collectivement, mais c'est pas facile comme question pour nous. Donc voilà, il n'y a pas de notes, de ta-ta-ta, ça c'était bon. Et je voulais finir avec l'exemple de la commission justice. Alors, nos élèves, ils ont des parcours qui viennent... Alors, ils viennent de très souvent, de plus en plus, c'est un refus d'orientation. Une orientation qui leur a été imposée à la fin du collège, où c'est des périodes souvent difficiles, où on leur dit en général des orientations dans des établissements techniques qui n'ont pas du tout réfléchi, qui n'ont pas... voilà. Et ils refusent cette orientation-là. Alors, nous, on les récupère à deux moments. Au moment où ils disent « il n'en est pas question », et donc ils cherchent une autre solution. Et il se trouve que nous, on est un lycée général et qu'on inscrit des élèves sans... un petit papier qui s'appelle le passage en seconde, qui est nécessaire pour s'inscrire en seconde générale. Donc nous, on n'exige pas du tout ce petit papier-là, donc ils peuvent venir au lycée faire de l'enseignement général, et pour eux, c'est... Vu comment la société française entrevoit l'enseignement technique, c'est-à-dire super mal, pour eux, c'est une manière de contourner ce diktat, quoi, enfin, de contourner. Donc, de continuer de faire des choses dans l'enseignement général, c'est très important pour eux. Donc, il y a ça. Et on les récupère aussi à un autre moment, le moment où ils ont été faire leur trajectoire dans le technique, où ça s'est super mal passé. Et donc, ils se retrouvent déscolarisés, sans formation, à des âges en général, après 16 ans, où le rectorat met moins d'empressement à les inscrire dans un établissement. Et là, nous, de nouveau, on peut être une solution. Il y a très peu dans nos inscrits de... militants chevronnés, c'est-à-dire qu'on inscrit très très peu d'autogestionnaires, et moi je trouve ça super, parce que ça veut dire que, je me souviens, on fait un bilan à la fin de l'année avec une élève, et je lui dis, alors, et en gestion, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi je ne fais pas. Je lui dis, mais attends, mais il y a deux commissions que tu as validées pendant l'année, tu as été délégué de ton groupe de base pendant deux autres séquences, donc... Ah, mais c'est ça la gestion. Ouais, c'est ça la gestion. Et moi j'aime bien ce côté-là de quand on met les mains dans le cambouis, voilà, il n'y a pas de formation théorique et c'est juste arriver à fonctionner ensemble, et ça c'est une grosse réussite du lycée. Et j'en viens à mon exemple de commission justice, donc il y en a qui suivent. On a une instance de régulation des conflits, parce qu'on a quand même des conflits. Alors moi, de mon expérience, de ce que j'ai perçu, j'ai l'impression vraiment d'un climat ultra apaisé. Apaisé entre les élèves, des élèves très différents qui se côtoient, qui font des activités ensemble, qui montent des projets ensemble. Très différents, je veux dire, mettre du hip-hop, du rock et de la pop dans un groupe d'élèves et qui fassent de la musique ensemble, et ben c'est super compliqué normalement. Super compliqué, c'est des cultures complètement différentes, des lieux géographiques différents, ils n'ont pas le même passé, et ils arrivent à se mettre ensemble. Donc, j'ai l'impression que le métissage au lycée, ça marche super bien. Le métissage, voilà, musical, c'est flagrant, ou style vestimentaire, j'en sais rien, mais de mon expérience dans les autres établissements, j'avais l'impression que tout ça était très très organisé et que j'avais mon petit groupe de enfin voilà, c'était très très très
cloisonné
complètement entre eux, et que finalement là j'ai l'impression que les portes sont plus facilement ouvertes. Il y a ça, mais il y a quand même des conflits, ça arrive entre élèves ou bien entre élèves et profs. Et quand on n'arrive pas à s'en sortir, on a inventé une instance composée de 3 profs élus et de 5 élèves élus. Et c'est ces 8 personnes-là qui vont recevoir les différents... alors ça peut être sur un conflit, je sais pas, de violence physique. Donc les 2 personnes qui se sont battues, l'une puis l'autre. Et puis essayer de les faire rediscuter. Ou voilà, ça c'est des cas assez faciles. Des cas faciles aussi, c'est dégradation... on n'a pas le droit de graffer au lycée, il y a un grand mur d'expression libre accessible, et puis on a décidé ensemble que dans les salles et tout ça, on ne faisait pas de graffe, et donc il y en a qui font quand même du tag et qui graffent, et ça, en général, cette équipe-là décide d'une réparation, il faut repeindre le mur, il faut repeindre un autre mur, il faut voilà. Et puis il y a des problèmes un peu plus épineux, et là, c'est au sein de ce groupe-là aussi que va se poser la question de la sanction, qui est une question toujours... Alors, on a dit, évidemment, non aux sanctions collectives. Ça, on est très d'accord comme principe que ça n'arrive pas. Mais sur des faits graves, les questions de privation d'activité, ce qui est... Enfin, au lycée, être privé d'activité, c'est super dur, puisqu'on peut y aller quand on veut. Eh ben, c'est super dur d'être comme sanction, recevoir ça, c'est vraiment extrêmement violent. Et c'est aussi l'endroit où on décide d'une expulsion définitive. Alors ça, c'est arrivé de façon rarissime, et dans ce cas-là, il y a une instance, la réunion d'équipe, qui entérine la décision, qui, on va dire, prend la responsabilité de l'exclusion définitive quand ce groupe-là la propose. Voilà, parce que c'est quand même des responsabilités pour nos élèves qui sont super lourdes, bien sûr, de décider de l'expulsion d'un tiers. Voilà. C'est très partiel comme...
La relation avec les parents dans l'établissement.
Excellente question. Ouais, la relation avec les parents. Alors nous, on organise au début de l'année une... Très peu. On organise au début de l'année une réunion où il y a des profs et des élèves qui présentent le lycée, comment ça fonctionne, un peu les grands thèmes que je viens d'aborder là. Les questions viennent ensuite, mais ça, c'est pas du... C'est pas les parents de tel élève dont je suis la tutrice qui viennent me rencontrer. C'est une vocation plus d'information générale. Et puis la relation avec les parents, alors il n'y a rien d'institutionnel, il n'y a pas d'inclusion des parents dans l'établissement, ça c'est sûr. Par contre, il est évident que moi sur mon. Mais là, c'est un peu chaque enseignant avec ses. On n'a pas de position d'équipe globale là-dessus. Il y a des. Et puis ça dépend des élèves. Il y a des élèves avec lesquels c'est très facile d'être en relation avec les parents, parce qu'ils vont bien, parce qu'ils ont choisi ce truc-là de façon positive, que les parents sont super d'accord avec le lycée autogéré, c'est vraiment formidable, ma fille est heureuse et tout ça. Donc là, c'est gagné, enfin, là, on n'a pas de travail à faire. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est beaucoup plus courant, les adolescences un peu plus houleuses, qui en général, la lutte à l'école est venue depuis le CE2. Et les parents et les enfants traînent cette lutte quotidienne. Il arrive au lycée autogéré de Paris, elle arrive. Et là, il y a ce lâcher prise des parents qui savent qu'on ne les contactera pas en cas d'absentéisme. Or, ils ont eu des comptes rendus en 4e, en 3e, qui a créé des tensions aussi, qui ont créé aussi des tensions à la maison et tout. Donc, il y a ce truc de faire confiance peut-être à l'établissement. Voilà. Et... Après, moi, mon travail de tutrice, je considère que c'est aussi d'aider un élève en pas très bon état scolaire à pouvoir discuter de ça franco avec ses parents. Et alors, en général, ils disent non, c'est pas possible, je comprends rien, tu verras ma mère, enfin bref. Mais une fois qu'on est dans une pièce avec eux, c'est-à-dire l'élève plus les parents, le parent en général, plus un autre, c'est-à-dire moi en l'occurrence, eh ben, c'est plus facile de mettre les choses sur le tapis et de se rendre compte de ce que fait vraiment son enfant au lycée, parce que donc on a l'impression, voilà, ils ont l'impression qu'ils regardent par le trou d'une serrure, les parents, parce qu'ils se disent ah ben non, j'ai rien le droit de savoir sur le lycée autogéré, il me dit que c'est chez lui, voilà, donc, il faut parfois un peu travailler sur ces ces frontières que les élèves veulent construire. Il y en a qui en ont besoin de... Hey, je suis chez moi. Voilà, mais c'est vrai que la question des relations avec les parents, elle est super compliquée. Moi, j'ai évidemment, sur les cas d'élèves qui nous paraissent en danger, on contacte évidemment les parents et on est en relation avec eux. Mais c'est rare. Mais c'est une... Voilà, je sais pas si j'ai donné des...
Il n'y a pas de rencontre, du coup, prévue...
Attendez, avant qu'on commence avec questions, réponses et compagnie, peut-être qu'on prend un verre et on revient pour discuter.
Ouais.
Merci.
Merci. Merci.
C'est la récré.
C'est fini.
Récré.
Merci. Oui, alors j'espère avoir été assez clair là-dessus. On est un lycée public, les profs sont rémunérés par l'éducation nationale et la scolarité est gratuite.
Je voulais savoir, pour revenir sur le panel sociologique des élèves, si ça avait à voir de près ou de loin avec le fait que vous soyez dans le 15e, qui est loin d'être l'arrondissement le plus défavorisé de la capitale, et d'autre part, géographiquement, d'où viennent les élèves? Est-ce que certains viennent de loin, par exemple? Et ceux qui viennent de loin, est-ce qu'ils font le trajet tous les jours, enfin, etc.
Alors, nos élèves viennent pas trop du 15e arrondissement de Paris. Voilà, les profs non plus, d'ailleurs. On est plutôt nord-est parisien, tous, c'est-à-dire qu'on traverse un peu, voilà. Il y a environ... cette année, c'est un peu moins de 30% de nos élèves qui viennent de banlieue. On fonctionne sans carte scolaire et donc on s'est donné comme souplesse de fonctionnement d'attaquer à 9h le matin pour que des gens qui viennent de loin puissent prendre les transports et traverser comme tant de franciliens le font en RER, en train, voilà, pour arriver au lycée. Mais on est beaucoup plus... Et il n'y a pas d'internat, on est dans de l'immobilier hors de prix. On en parlait tout à l'heure, à Saint-Nazaire, au lycée expérimental, ils ont des idées de logement semi-collectif, de location en commun, voilà, pour héberger des élèves qui viennent de très loin, et nous, ça, on ne fait pas. Et nos activités, c'est de 9h à 18h.
Oui, une question très éducation nationale. Est-ce que vous êtes inspecté aussi en tant que prof? Vous n'avez pas, pas d'inspection, pas de notes, pas de...
Non, moi, je suis inspectée. Alors, pour les gens non éducation nationale, l'inspection n'est pas ce lieu d'échange incroyablement riche pédagogiquement dont on pourrait rêver, bien que ça arrive parfois. C'est, je pense, dans la vision du prof, l'occasion de voir sa carrière évoluer. Voilà. Ou pas. Donc, être inspecté, ça n'arrive pas beaucoup. Alors, on a reçu... Moi, ça me dérange que les inspecteurs ne viennent pas au lycée autogéré. J'aimerais bien qu'ils viennent. J'aimerais bien discuter avec eux. Ma carrière n'avance pas à l'heure actuelle. Je veux bien qu'elle continue à stagner, mais je me dis qu'il y aurait sans doute des choses à prendre bonnes de part et d'autre dans cet échange-là. J'aimerais bien. Simplement, ça ne vous aura pas échappé, certains anarchistes se sont glissés dans cette équipe qui voit d'un très mauvais œil le concept même d'inspection. Donc quand on essaye de se mettre d'accord en réunion d'équipe sur est-ce qu'on invite les inspecteurs, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on le fait, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, c'est des choses qui sont très très clivantes entre nous et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et je dois dire que mon intérêt pour les échanges fructueux qui pourraient avoir lieu s'efface vite. Je trouve ça dommage qu'on soit pas plus mais ça dépasse les inspections, qu'on soit pas plus ouvert à l'éducation nationale. On parlait des collègues qui peuvent individuellement venir sur leur... parce qu'ils ont entendu parler du lycée. Mais pourquoi pas en faire un lieu de
formation d'inspecteurs.
Mais de formation. Mais ça, par exemple, c'est hors de question. Il y a des collègues qui étaient titularisés en cours de... Donc, qui ont eu un concours au lycée. Systématiquement, la réponse qui a été faite... Alors, ils étaient donc sur une trajectoire de 8 ans, 10 ans d'enseignement au lycée. Ils ont un concours en formation interne. On leur demande de quitter l'établissement pour aller faire un an ailleurs où ils pourront être inspectés avant de revenir au lycée, quoi. Donc, c'est sûr que... Voilà. Mais ils nous connaissent pas du tout. Ils racontent. Dès qu'on les entend parler, on se dit qu'ils se disent et on comprend qu'ils viennent pas parce que si on les écoute, il y a vraiment une vision de on fout rien. Mais on fout rien. C'est la chandie. Voilà. Donc il y a une méconnaissance de part et d'autre.
J'ai du mal à comprendre parce que en fait c'est un lycée éducation nationale comme n'importe quel lycée. Sauf que vous, il n'y a pas les inspecteurs, il n'y a pas de programme, il n'y a pas la responsabilité des mineurs, il n'y a pas tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi l'éducation nationale n'impose pas la même chose à vous qu'à tout le monde.
Alors, je reviens sur la responsabilité d'un adulte face à un mineur. Elle existe. Hein. Je suis bien évidemment responsable de mes élèves au moment où ils sont au lycée.
Non, parce qu'il y avait l'idée que quand les parents sont pas avertis que l'enfant n'est pas venu à l'école, du coup, ça se passe comment ?
Jusqu'ici, ça s'est toujours très bien passé. On va voir s'il y a un élève qui se fait écraser par une voiture. Évidemment, ça va poser des questions. Ça va poser des questions de responsabilité. C'est évident, quoi. C'est évident. L'éducation nationale, on n'est pas. J'espère que j'ai pas fait un portrait faux de ce qu'on fait au lycée. On est intégré à l'éducation nationale et les élèves qui veulent préparer leurs examens au lycée préparent leurs examens. Les élèves qui veulent réintégrer, il y en a qui viennent une année au lycée et qui se disent ensuite, oh là là, moi cette liberté là, j'ai du mal. Mais maintenant que peut-être ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire un peu après. Pour ça, j'ai besoin du bac. Je vais reprendre un cursus dans un lycée traditionnel pour mon objectif qui s'est dessiné là. Et bien, ceux-là, évidemment qu'on leur fait des bulletins avec des notes comme un vrai lycée qui leur permettent de suivre le cursus qu'ils ont décidé de faire. On n'est pas du tout... Alors, il y a des collègues dans l'éducation nationale qui refusent les inspections. On peut le faire. Ben oui. C'est que le système de l'inspection d'un point de vue. Enfin, c'est un vaste sujet, mais. L'inspection du prof, ça note le prof. Dans une situation ponctuelle, une fois tous les 5 ans. Voilà, et ça note le prof. Et le prof va reproduire ça dans son enseignement, où il va noter les élèves. Ce truc-là. Et bien, ça, on peut quand même questionner l'efficacité du processus. Et bien en dehors du lycée, on n'est que 25 sur la France entière, hein. En dehors de ces 25 petites personnes-là, il y a des collègues qui refusent les inspections, de façon politique. Et il y en a qui se font sanctionner par leur hiérarchie pour refus d'inspection aussi.
Quels sont vos rapports avec l'école Montessori ?
Quels sont vos rapports avec l'école Montessori ?
Ah, ça c'est une question que je n'ai pas. Alors si, Madame Montessori, née en 1880. moi, je ne suis pas du tout une technicienne, comme je le disais au début. Si l'idée que j'en ai, c'est-à-dire mettre l'élève et ses besoins à la base, et aider par des apports, quand l'élève ressent le besoin d'apprendre, donner des billes, pour arriver à construire ça, et ben on est plutôt dans des mouvements comme ça. On parlait plus de Freinet et donc j'ai pas revu ma. Et voilà. Après moi là où je suis vraiment pas forte, donc je préfère pas y aller. Autour de Montessori, c'est quelle place a le collectif. Et ça moi j'en sais rien du tout. Et chez nous c'est sûr que d'abord c'est le collectif. Et on est avec des grands aussi. Pendant la question, je peux voir des coups.
Non, mais la question, elle viendra.
Tu as parlé que le fait que les élèves sont dans des commissions, ils prennent des décisions, ils apprennent de prendre la parole devant les autres, d'argumenter, de convaincre, d'être convaincu. Tout ça, ça les forme quand même en citoyens. Qu'est-ce qu'on pourrait installer dans les écoles, dans les autres écoles de cette expérience? Comment on pourrait enrichir les autres institutions avec... Qu'est-ce que tu vois comme pied de levier d'introduire plus de cette éducation politique, citoyen, dans l'école normale, où moi, mon impression, mon image de l'école française, c'est vraiment le cran en tournoir. Hein. Tu te tais et tu encaisses.
Alors ça, j'espère que c'est en train de disparaître. J'espère qu'il y a des ouvertures à ce sujet. Moi, de façon basique, juste libérer cette parole. Qu'il y ait des vrais espaces de parole où la parole d'un élève ait du poids. Parce que de ce que j'ai vécu moi comme élève, il y a eu des activités dans lesquelles moi j'étais élève, dans des établissements on ne peut plus traditionnels, où je sentais bien que mon intervention modifiait les choses. Et puis j'ai aussi vécu des endroits avec d'autres profs, dans d'autres activités, où mon intervention ou rien, c'est exactement pareil. Donc je pense qu'il y a des espaces qui existent et que le rendre possible cette liberté de parole, on en a beaucoup discuté après les attentats de Charlie. Dans toute l'éducation nationale, on a reçu des lettres de ministres qui nous encourageaient à laisser les citoyens s'exprimer et tout. Et mais de quoi on parle ? À quel moment dans la structure dont tu es la grande chef, à quel moment cette parole-là, elle est libre ? Si les gars, ils ont pas, s'ils peuvent pas dire leur sentiment, comment ? Enfin, c'était condamné, quoi. C'était, je sais pas, aucune liberté de parole. Donc pour moi, ça. Ouvrir des espaces de parole, c'est fondamental. Et que cette parole ait du poids, et que ce soit pas une heure qu'on ouvre une fois parce qu'il y a eu un attentat, quoi. Et si c'est quotidien, et ben le jour de l'attentat, on sera peut-être plus... Ce sera peut-être plus facile d'en discuter. Ça a été très très compliqué de discuter des attentats de Charlie Hebdo.
Au sein même de votre lycée ?
Ben chez nous, on a fait des AG, non, pas au sein de notre lycée. Enfin, ça a été des moments super forts et vachement... voilà, j'en ai un souvenir... prégnant, mais chez nous, c'est, je pense à d'autres collègues plutôt qui ont eu dans des moments d'échange super compliqués avec des élèves qui la liberté d'expression, ok, mais là c'est pas bon, mourir, ouais, peut-être, enfin, vous les avez entendus ces interventions-là, et elles ont été condamnées et on n'a pas pu les prendre en compte. Et on n'a pas pu travailler avec dessus, parce qu'il y a même eu des affaires judiciaires sur des prises de parole comme ça. Donc voilà, si on ne peut pas parler librement et essayer de se convaincre les uns les autres, quel citoyen. Et la vision de l'entonnoir, j'espère qu'elle est un peu dépassée.
Non, parce que...
Est-ce que c'est dépassé ?
Ils acceptent tout. Oui.
C'est pas que ça,
on va pas faire un débat à deux là. Mais...
Des raisons pourquoi les Français parlent tellement mauvais des autres langues, c'est qu'ils n'osent pas de sortir une phrase dont ils ne sont pas sûrs qu'elle est 100% correcte.
C'est l'élitisme à la française.
Je vais répondre à ça là.
Est-ce que
je peux dire un mot là-dessus ? À dire vraiment, Léna, ça a changé. Je vais te donner un exemple. Nous, en langue, on a maintenant des notions pour le bac, dont une qui s'appelle le progrès. Quand il y avait la manif contre le mariage pour tous en France, nous, dans notre manuel scolaire en espagnol, on avait des photos et des documents de deux hommes en train de se marier, qui était légal en Espagne depuis 2005. Et donc la parole était libre en classe et les élèves pouvaient s'exprimer dans une langue étrangère dont je n'avais rien à cirer si c'était l'imparfait des subjonctifs comme il fallait. Donc je veux dire, je ne corrigeais pas les verbes parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle le cadre européen et ça s'enseigne autrement les langues. C'est plus les Français qui étudient l'anglais pendant 10 ans qui ne savent pas dire un mot. C'est plus les listes des verbes aux subjonctifs. Enfin, c'est une langue, c'est un outil de communication. Et ce que disait la jeune prof aussi, c'est que les langues, ce que disait Marion aussi, c'est on est moins prisonnier d'un programme. Et on a vraiment la liberté. Bon, il y a maintenant quatre notions, il y a le pouvoir et tout ça, et on fait du politique. Et quand j'ai fait, par exemple, le soja transgénique en Argentine, c'est moi qui choisis les documents. Donc je peux dire, travailler sur le commerce équitable sur beaucoup de choses en classe. Les élèves peuvent me dire, ah, c'est pas la même version que la prof d'économie. Donc voilà, j'ai donné notre point de vue et je libère la parole. Et mes élèves sont en train de pratiquer la langue espagnole. Donc ce qui compte, c'est qu'ils s'expriment, ils sont libres. Et voilà, c'est le débat. Et donc, ce n'est plus comme cet entonnoir que